Sotrevoix de la presse.
Plus on apprend, plus on ne sait rien.
Une émission présentée par Jocelyn Perret.
On nous informe vraiment sur rien.
Bonjour, aujourd'hui pour les autres voix de la presse, nous recevons Lisa Gianarelli. Bonjour Lisa.
Bonjour.
Alors Lisa, aujourd'hui si on est ensemble, c'est parce que tu es partie pour un tour de France à vélo des radios associatives. J'ai trouvé ça vraiment très très intéressant, surtout que voilà, je suis assez proche du mouvement des radios associatives, hein, c'est vraiment quelque chose qui me porte. Et en gros, tu vas nous expliquer un petit peu qui tu es, d'où tu viens et comment t'es venue l'idée de ce projet de tour de France à vélo.
Ah oui, donc moi c'est Lisa et j'ai découvert l'univers de la radio un peu par hasard parce que j'ai fait des études en économie sociale et solidaire, plutôt côté gestion de projet. Et j'ai trouvé du travail après mon master dans une radio associative à Mulhouse, la radio WNE. Et je suis rentrée plutôt côté gestion de projet, donc d'abord chargée de projet, après coordinatrice de l'association. Et en fait, c'était un univers que je ne connaissais pas du tout, les radios associatives. J'ai toujours écouté beaucoup de podcasts, de radios, et en arrivant là, je me suis dit, mais pourquoi je ne connais pas les radios associatives alors que ça fait quand même un moment que je traîne dans le monde associatif. Et c'était vraiment un univers que je découvrais, qui m'a beaucoup, beaucoup plu, en tout cas. Et donc, j'ai décidé de me lancer en indépendante pour pouvoir me consacrer plus à la création radiophonique. Parce que, en fait, quand on est salarié, surtout du côté gestion de projet, on n'a jamais le temps de faire beaucoup de radio, finalement. On fait beaucoup de demandes de financement, de gestion administrative, de gestion d'équipe. Et c'était quelque chose qui me manquait, de pouvoir plus faire de la création sonore. Donc, moi, le format que j'adore, c'est le documentaire. Donc, j'ai lancé dans le documentaire sonore. Et en même temps, j'avais aussi envie de partir de Mulhouse, de visiter sans savoir vraiment trop où aller. Et donc, j'ai lié les deux. Je me suis dit, allez, je vais réaliser un premier documentaire, profiter d'avoir le droit au maintien de chômage pour création d'activité et le voyage. Et donc, mon documentaire s'est tourné vers les radios associatives parce que c'est des actrices que j'ai découvertes un peu tardivement, que j'ai trouvé hyper intéressante, parce qu'il y a plein de choses dans les coulisses dont on ne se rend pas compte quand on écoute la radio. Quand j'écoutais la radio, je ne me posais pas trop la question si c'était associatif, public, une entreprise. Déjà de soulever un peu le statut juridique et qu'est-ce que ça fait transparaître dans ces radios. Et puis, en fait, j'ai découvert vraiment des actrices importantes pour le territoire, pour le lien entre les acteurs et les actrices présentes sur un territoire. Et puis, un espace aussi pour créer du lien social, c'est aussi des espaces de convivialité où on peut se retrouver, où on peut créer ensemble. Et ça, il me semble que c'est hyper important, surtout en ce moment. Donc voilà, je me suis lancée sur ce documentaire. Donc je suis partie fin août. Alors donc moi je suis originaire du Var, j'ai travaillé à Mulhouse, mais je suis partie de Chamonix parce que ce Tour de France c'est n'importe quoi, c'est pas du tout linéaire. Et c'est parce que j'avais rencontré une radio à Chamonix qui s'appelle Globule Radio. Qui avait un événement fin août et je me suis dit tiens, ça tombe à peu près dans les dates auxquelles je voudrais partir, donc je les ai rejoints. Et voilà, après, je suis partie en direction du sud, donc je suis pas mal restée dans les Alpes au début. Et en ce moment, je suis en Bretagne et je vais continuer ce voyage jusqu'à fin août. Donc j'ai prévu de le terminer en Alsace, là où j'ai commencé la radio. Je trouve que ça fait une jolie fin de voyage.
Et comment tu t'organises? Parce que donc ton voyage, tu le fais à vélo, donc tu prends le temps de te déplacer de radio en radio, de ville en ville. Est-ce que tu as au préalable justement contacté toutes ces radios, défini on va dire, un parcours précis au jour près, ou est-ce que tu fais un peu comme ça à volo en fonction de où tu as envie d'aller et en fonction des contacts ou des radios dont tu entends parler?
Alors, je vais faire un peu au fur et à mesure. Alors, déjà, je ne fais pas que du vélo. Je mets mon vélo dans le train aussi pour les longs trajets. Parce que, comme je disais, ce n'est pas un Tour de France très linéaire. Donc, des fois, je fais des grosses distances d'un coup. Parce que, en fait, mon trajet, il se construit un peu au fur et à mesure. J'ai quelques grandes étapes, on va dire. Parce que je suis aussi les événements autour de la radio et du podcast. Donc là, en ce moment, je suis en Bretagne pour aller au festival Longueur d'onde, un festival de radio. La semaine prochaine, je pars à Paris pour un autre festival qui s'appelle le Paris Radio Show. Donc voilà, là, je mets mon vélo dans le train pour faire des distances un peu plus longues. Et sinon, je contacte donc les radios qui sont sur ma route. Il y en a quelques-unes que j'ai repérées en ligne, d'autres qu'on m'a conseillées, parce qu'au fil de mes rencontres avec les radios, on me conseille aussi d'autres radios à aller voir. Et donc évidemment, je ne peux pas voir toutes les radios de France parce qu'il y en a plus de 700, donc ce serait impossible en un an d'aller toutes les voir. Donc déjà, je me suis dit, je ne fais pas les radios confessionnelles. C'est un choix éditorial, ça aurait pu être intéressant aussi d'aller les voir, mais voilà, par manque de temps, je me suis dit, ça me fait déjà pas mal de radios éliminées. Et je ne fais pas les radios qui font que de la musique, il faut quand même qu'il y ait un peu de communication sociale de proximité, d'émissions bénévoles, de choses qui font vivre le territoire.
Et du coup, depuis ton départ fin août de Chamonix, tu en es à combien de rencontres de radio?
Alors là, je suis bientôt à 30 radios rencontrées. Donc ma démarche a un peu changé au début. Je voulais voir le plus de radios possible pour montrer la diversité du paysage radiophonique. Donc, des fois, je restais une matinée, une interview, puis je repartais. Et en fait, il y a quelques radios où j'ai pu tester de rester quelques jours avec ces radios en immersion avec l'équipe. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant. En fait, il y a d'autres choses qui ressortent. Donc, maintenant, je vois un peu moins de radios, mais je reste plus longtemps et ça crée des échanges d'autant plus riches. Donc voilà, je vais continuer avec à peu près une radio par semaine.
Et comment tu travailles? Est-ce que tu nous parles de podcast, de documentaire? Est-ce qu'il faut mettre un S à documentaire et podcast? C'est-à-dire tu fais un podcast par rencontre ou est-ce que c'est un projet global où il y aura un long documentaire justement présentant l'univers des radios associatives, des radios de proximité?
Alors, c'est un long documentaire. Qui va sortir à la fin, mais c'est même une série de podcasts documentaires. Parce que au plus j'avance, au plus j'ai énormément de choses à raconter, de voix à faire entendre des radios. Donc je vais faire une série documentaire thématique avec des épisodes thématiques. Ce ne sera pas une radio, un épisode. Donc je pars de l'histoire des radios associatives, depuis les radios pirates. Puis comment elles se sont petit à petit transformées, formalisées en association, comment elles se sont professionnalisées au fil du temps pour beaucoup. Et aujourd'hui, comment elles fonctionnent, qui fait vivre les radios associatives, leur rapport au territoire, mais aussi à l'information libre indépendante, comment on fait vivre de l'information libre indépendante de proximité sur un territoire alors que les financements n'arrêtent pas de diminuer. Enfin, je prends en compte plein d'aspects des radios associatives.
Et dans toutes ces radios associatives, je pense que du coup, tu as certainement croisé des radios avec des fonctionnements totalement différents. Il y a des radios où il y a uniquement des bénévoles, d'autres où il y a plusieurs salariés.
Oui, c'est ça. La radio avec le plus de salariés que j'ai rencontrés, il y avait 8 salariés, donc ça commence à faire pas mal dans le milieu associatif. Et j'ai aussi rencontré des radios 100% de bénévoles, soit par choix, soit par nécessité financière. Par exemple, Radio Canu à Lyon, qui est vraiment une radio qui ne veut pas de salariés, qui veut que la radio continue à appartenir à des bénévoles, qu'elle soit toujours dans l'esprit des radios libres des années 80. Alors que j'ai rencontré des radios qui fonctionnaient quasiment qu'avec des salariés aujourd'hui, qui avaient du mal à recruter des bénévoles. Donc il y a vraiment des fonctionnements très différents, même si on retrouve quelques similarités. C'est vraiment un univers très différent en fonction du territoire, en fonction de la ligne éditoriale, des personnes qui composent la radio, etc.
Tu parles de territoire, je pense que est-ce que tu as soulevé des différences entre également de lignes éditoriales entre des radios qu'on pourrait appeler des radios rurales et des radios urbaines?
Oui, alors les radios rurales, j'ai trouvé que y a un côté un peu peut-être un peu plus généraliste pour pouvoir essayer de parler à plein de monde différents parce que en fait elles s'adressent parfois à plusieurs communes et donc il faut que leur contenu puisse s'adapter à ces personnes qui habitent sur ces communes qui sont très différentes. Il y a une densité de population beaucoup plus faible et elles fonctionnent aussi très souvent avec du salariat, alors que les radios dans les grandes villes ont peut-être moins la nécessité de fonctionner avec du salariat. On va dire que la densité de population fait aussi que c'est plus facile de recruter des bénévoles, qu'il y a plus de gens peut-être qui s'intéressent à la radio et qui ont envie d'en faire. Et puis en milieu urbain, elles peuvent aussi plus se professionnaliser, pas se professionnaliser, pardon, se spécialiser sur une thématique, une ligne éditoriale, parce que finalement, il y a plusieurs communautés à laquelle elles peuvent parler, elles vont essayer de s'adresser à une seule communauté, peut-être aussi pour pas se faire concurrence, parce que dans les villes, c'est très courant d'avoir plusieurs radios associatives, alors qu'à la campagne, il peut avoir qu'une seule radio associative à des kilomètres à la ronde.
Et du coup, est-ce que quand tu étais dans des villes justement où il y avait plusieurs radios associatives, est-ce que tu as fait un peu le tour? Est-ce que tu as rencontré ces différentes radios pour essayer de voir justement quelles étaient les différences de fonctionnement ou de ligne éditoriale?
Alors, j'ai fait quelques radios différentes dans plusieurs villes. Je pense par exemple à Toulouse, où j'ai pu rencontrer trois radios différentes. Donc, il y avait aussi une histoire très différente. Donc, une radio plutôt orientée rock, punk, qui était restée beaucoup sur ce style de musique, avec aussi des contenus politiques, des contenus d'actualité. Donc, ça, c'était la radio éphémère. Une autre radio qui s'appelle Canal Sud, qui elle, à la base, avait une orientation très politique créée par un groupe anarchiste, un local loué à bas prix par un résistant espagnol pendant la dictature. Donc, ça se ressent sur sa ligne éditoriale aujourd'hui qui produit moins de musique, plus de contenu parlé avec vraiment de l'analyse politique, des sujets comme le monde carcéral, vraiment des choses assez pointues. Et la dernière radio, qui est une radio Mon País, que j'ai vue à Toulouse, qui, elle, a été créée par la CGT à la base. Maintenant, c'est une association indépendante. Mais je pense que son histoire à travers la CGT, ça joue aussi sur son contenu actuel. Donc, il y a quand même des émissions musicales. Mais il y a beaucoup d'associations qui viennent y parler, faire du plaidoyer. Et on trouve aussi un journal des luttes, de l'actualité sociale. Donc l'histoire des radios va pas mal influencer leur ligne éditoriale actuelle, de ce que j'ai vu. Et ouais, sur une ville, on peut avoir trois radios assez spécifiques et qui trouvent tout un auditoire quand même.
On sait aussi que des fois il y a des spécificités, si on prend par exemple Radio Larzac ou Radio Diwa, des radios justement rurales, des radios de montagne, on va dire, et qui du coup ont souvent plusieurs bureaux, voire plusieurs émetteurs. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu as rencontré assez régulièrement? Est-ce que c'est un fonctionnement différent d'une radio qui n'a qu'un seul émetteur, qu'un seul bureau, on va dire, qu'une seule équipe?
Eh ben, j'ai rencontré justement Radio Diwa et alors j'ai pas rencontré Radio Larzac, mais j'ai rencontré Radio Sainte-Afrique, qui est aussi dans ces zones de montagne. Donc c'est vrai qu'ils ont plusieurs émetteurs. Ça veut dire aussi que c'est un peu plus cher. Donc il faut aussi gérer les financements derrière. Radio Diwa a 8 salariés, donc c'est vraiment un fonctionnement différent de ce que j'ai vu à Radio Sainte-Afrique où il n'y a que 3 salariés à temps partiel. Mais de ce que j'ai pu voir, c'est que du coup, il y a une obligation d'avoir des salariés dans ces milieux-là pour faire vivre la radio. En tout cas, parce que ça nécessite de plus d'argent, parce qu'il y a aussi moins de personnes sur le territoire, c'est difficile de se déplacer. Donc, pour qu'il y ait vraiment un contenu quotidien, il faut qu'il y ait des salariés.
Merci de laisser un message après le bip sonore.
Ouais, Nano. Tu sais, je me disais, j'aimerais bien écrire un texte sur toutes les lettres que j'ai écrites où j'avais aucun retour. vous disais que parfois l'amour, ça semble être qu'un train qui part ou un avion qui décolle. Un truc du style, quoi. Et je me dis, ça pourrait donner un truc du style comme ça.
À ta santé, toi l'arrache-cœur, fait pour un orphelinet, un coup de baiser mitrailleur. Son lit est un champ de bataille, terrain de passion destructrice, où gît une peluche à fracas facial qui agonise destructrice. Ils approcheront les curieux, et il sera trop tard quand t'incises le tire-bouchon à écœurer, qui les cardectomise. Les muses sont peut-être des déesses, attirées par des rameaux, mais comme les poètes, elles disparaissent. Et Verlaine tire sur Rimbaud. Le socle qui se lézarde, écarte la flore intime et fait battre le cœur de marbre. Des statues florentines, ils sèchent les cours pour de la baisse, détestent les mathématiques, mais leur relation amoureuse ne sont que des algorithmes, moi le bagnard de l'Amazon. Sa mine est grise et pâle à cause de ceux qui rend les hommes plus schizophrènes qu'un bicéphale. Je reviendrai de Sibérie armé et bardé de médailles, mais mes baisers jadis arides seront plus froids que du métal. Voici le temps des assassins, jouez les Angélus quand l'amour touche à sa fin. Vous riez les Angélus, voici le temps des assassins. On aura bien combattu et si vous me croisez dans la rue, priez pour mon salut. Voici le temps des assassins, jouez les Angélus quand l'amour touche à sa fin. Vous riez les Angélus, voici le temps des assassins. On aura bien combattu et si vous me croisez dans la rue, priez pour son salut. À ta santé, toi le vampire qui a le baiser clairvoyant mais qui rend les gens pires. Et tu survoles le monde comme une baigneuse des hautes sphères. Ta beauté illumine du nombre des dédaigneux et austères pour embrasser tes nécrophiles de l'ossuaire d'où tu descends. Tes baisers à la chlorophylle possèdent un arrière-goût de sang. Le vampire est dément, faire l'amour n'est qu'un combat souple. Alors moi la nuit je mens comme Bachou. Car chacun veut qu'on l'aime et dans la conquête l'hémophile. Puis de trous sous les oreilles et l'hémorragie hémophile. Parler à un tombeau d'usine puis on attend que ce bruit cesse. Car à part de la musique on fait tout de travers dans la tristesse. Mon cœur pèse un piano, Lily Brick souvient du temps. À ton doigt léger comme un anneau ou des périsses en 20 titans. Je reviendrai avec un couteau planté dans ton faux air de gitane. Et ta tête capillotractée dans mes interdigitales.
Voici le temps des assassins, jouez les Angélus quand l'amour touche à sa fin. Vous riez les Angélus, voici le temps des assassins. On aura bien combattu et si vous me croisez dans la rue, priez pour mon salut. Voici le temps des assassins, jouez les Angélus quand l'amour touche à sa fin. Vous riez les Angélus, voici le temps des assassins. On aura bien combattu et si vous me croisez dans la rue, priez pour son salut.
À ta santé, toi la beauté du diable, pour qui l'homme traverse l'enfer et qui rend triste comme du sable. Si tout ça nous le savons, que le Styx mène vers les rapides, on vole quand même les avirons, car on pourrait y aller de plus rapide. Les armées des milices célestes, brûlées par les braises diaphanes, tourmentent Méphistophélès quand il souffle sur les femmes. Si l'amoureux se sent si seul, quand l'ange déchu des choix, c'est que dans le tissu social, on n'est fait que de soi. Les croisades de la galoche sont une éternelle chevauchée, où les hippocampes sans accroche se fracassent sur les rochers. Dans la tempête de Scéole, l'amoureux frappé d'aphonie attriste l'entourage impuissant de sombrer vers la folie. Quand parfois il faisait froid, je s'assois devant elle. Son regard est un feu de bois qui réchauffait mes grandes ailes. Je reviendrai pas, ni toi d'ailleurs, de cette cabane. Je vais voir ta beauté intérieure, parce que chez moi y'a pas d'âme. Voici le temps des assassins, jouez les Angélus quand l'amour touche à sa fin. Vous riez les Angélus, voici le temps des assassins. On aura bien combattu et si vous me croisez dans la rue, priez pour mon salut. Voici le temps des assassins, jouez les Angélus quand l'amour touche à sa fin. Vous riez les Angélus, voici le temps des assassins. On aura bien combattu et si vous me croisez dans la rue, priez pour son salut.
Chut, c'est juste moi, je viens t'embrasser dans ton dernier bain d'épines, et ça va laisser sur tes lèvres un goût de benzodiazépine. T'es un chef d'orchestre russe qui a suscité pas mal cri, ou bien t'es juste la roulette russe qui a suscité Mayakovsky. Viens, on s'embrasse sous le linceul, je viens avec toi mon assassin, parce que tu sais, l'éternité c'est long tout seul, surtout vers la fin.
La France, c'est la meilleure émission de toute la vie.
du monde entier.
Merci papa.
Merci papa.
Dans ces différentes radios que tu as croisées, est-ce que vous avez abordé justement l'évolution de la radio, c'est-à-dire entre guillemets la fin de la FM qui est programmée et qui devrait être remplacée par le DAB+ ? Est-ce que c'est quelque chose qui semble aller tout seul ? Est-ce que ça pose des problèmes autant en termes entre guillemets éthiques qu'en termes de fonctionnement, de diffusion, voire de perte peut-être d'un nombre d'auditeurs, auditrices ?
Alors, ça pose beaucoup de questions. Dans pas mal de radios où je suis allée, alors il y en a qui se posent pas trop de questions, qui vont directement vers le DAB et qui le doublent avec la FM. Enfin, les radios qui étaient déjà en FM gardent la FM, mais doublent avec le DAB. Et il y a d'autres radios qui se posent la question, qui hésitent, qui ont aussi des revendications plus politiques. Ben, le DAB, déjà, ça coûte plus cher. Pour la personne qui écoute et pour la personne qui émet, parce que donc ça passe par internet, donc quand on est chez soi, il faut un abonnement internet. C'est pas comme la FM où on va juste capter une onde et il suffit d'un poste de radio, c'est des technologies un peu plus compliquées, donc ça pose question par rapport aux personnes qui écoutent. Ça pose aussi question par rapport à l'anonymat, puisque donc avec le DAB, on va pouvoir récolter des données, savoir qui écoute quoi. Et alors que la FM, c'est impossible de savoir qui écoute quoi en FM, qu'on peut avoir à peu près le nombre d'auditeurs et d'auditrices total, mais pas qui écoute quoi. Donc, au vu de la situation politique, ça inquiète certaines radios aussi. Est-ce qu'on va pouvoir contrôler ce qu'on écoute avec le DAB ? Mais pour beaucoup, c'est quand même un souci financier.
Tu parles du souci financier, justement. En effet, en ce moment, il y a des menaces sur les subventions accordées par l'État, la région, département. Ces différentes radios sont impactées un peu justement par toutes ces coupes. Est-ce qu'il y en a justement qui sont plus à même de disparaître ou d'avoir des problèmes de fonctionnement en fonction justement de ces financements, que ce soit dans l'animation ou des subventions de fonctionnement ?
Et ben, y a des radios que j'ai rencontrées qui clairement m'ont dit sans FSER, on ferme la radio. Parce que le FSER, c'est une des subventions qui est vraiment importante pour les radios, parce qu'elle dépend seulement du fait d'être une radio et d'avoir une fréquence définitive. Pas le cas de toutes, mais qui propose quand même d'avoir de l'argent pour le fonctionnement. Et ça, c'était de plus en plus rare dans le milieu associatif. Je pense à toutes les associations d'ailleurs, pas que les radios. Mais donc, d'avoir conservé cette subvention de fonctionnement, c'est hyper important pour les radios parce que le fonctionnement coûte cher. J'en parlais encore hier, le coût de l'énergie, par exemple, ça a beaucoup augmenté les besoins financiers des radios. Parce qu'il y a des serveurs, parce qu'il y a de la diffusion, parce que le studio radio, mine de rien, ça consomme quand même de l'électricité. Donc, c'est vraiment des coûts qu'on ne peut pas abaisser. Donc, ils ont besoin de cette subvention de fonctionnement et qui n'est pas sur projet, justement, parce que comme ça, ils peuvent aussi aller sur des événements locaux qui ne seraient pas forcément financés sur des appels à projets. C'est vraiment une subvention hyper importante. Et c'est beaucoup les radios avec peu de salariés ou 100% bénévoles qui pourraient pas en fait aller à la recherche d'appels à projets, de nouvelles prestations, alors que les radios qui sont un peu plus professionnalisées, qui vont avoir plusieurs salariés à temps plein, ils vont pouvoir aussi diversifier leurs sources de financement, aller vers de l'appel à projet, aller vers de la prestation, parce qu'il y a du temps de travail pour ça. C'est du temps que prendraient pas des bénévoles, parce que c'est devenu tellement compliqué, ces dossiers de subvention, que je comprends qu'un bénévole n'ait pas envie de faire ça.
Dans les sources de financement, il y a un financement qu'on n'a pas abordé. Je ne sais pas si pour toi c'était un critère de sélection des radios que tu allais rencontrer. C'est la publicité. Les radios associatives ont droit jusqu'à moins de 20% de publicité pour justement continuer à demander le FSER, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Est-ce que tu as rencontré beaucoup de radios justement qui utilisent, qui diffusent de la publicité ? Si oui, quel type de publicité ? Et est-ce qu'elles ont une ligne éditoriale cohérente en fonction de cette publicité ? Est-ce que ça impacte ?
Alors, j'ai rencontré très peu de radios qui font de la publicité. Les radios associatives sont assez attachées à une diffusion sans publicité. Malheureusement, avec la baisse des financements publics et la menace du fonds de soutien à l'expression radiophonique là, récemment, il y en a de plus en plus qui se posent la question, est-ce qu'il ne faudrait pas faire de la publicité pour compenser un peu? Pour l'instant, j'ai rencontré que deux radios là, sur presque 30 qui diffusaient de la publicité. Alors, il y a plusieurs formats, enfin, si on peut appeler ça de la publicité, c'est pas vraiment ça, c'est des messages d'intérêt public. Donc, elles peuvent faire payer des messages d'intérêt public, ce que je différencie de la publicité vraiment pour des entreprises. Et là, les radios que j'ai rencontrées, c'est plutôt pour des entreprises locales. Donc, elles vont essayer, malgré tout, mettre en valeur les commerçants du coin. Après, malheureusement, ça peut être aussi des grosses chaînes du coin, hein, comme le Super U du coin, l'Intermarché du coin. Mais ça leur fait un revenu supplémentaire. Donc, moi, c'est une question que je n'ai pas encore beaucoup étudiée, mais qui me semble hyper intéressante. Donc, en fait, comment garder son indépendance face à cette baisse des financements publics? Est-ce que déjà être financé par les collectivités locales, c'est pas déjà une baisse de financement? Est-ce que ça peut être compensé par la publicité? Est-ce que la publicité va amener aussi d'autres lignées éditoriales? Parce que du coup, il faut que la radio attire les personnes qui seraient prêtes à payer des spots publicitaires. Donc, c'est des questions que je n'ai pas encore beaucoup étudiées, mais que j'aimerais bien un peu plus approfondir, justement.
Tu nous disais là que depuis fin août, donc dernier, tu avais déjà rencontré une trentaine de radios. C'est le rythme que tu vas garder jusqu'à fin août 2026?
Je ne sais pas vraiment, parce que, comme je disais, je le fais un peu au fur et à mesure, ce voyage. Donc, avec à peu près une radio par semaine, une à deux radios par semaine. Donc, je pense que je devrais en rencontrer encore à peu près le double parce que je suis à mi-parcours, là, ça fait 5 mois.
Et donc, tu es à mi-parcours, tu as déjà prévu de terminer fin août. Tu sais déjà où est-ce que tu vas poser ta dernière valise, ton dernier micro. D'ailleurs, je ne t'ai pas demandé, quand tu rencontres les radios, est-ce que tu te déplaces avec ton propre matériel? Est-ce que tu as une valise avec du matériel radio? Ou est-ce que c'est les rencontres, les enregistrements, les interviews, les discussions, tu les fais dans les studios même des radios dans lesquelles tu te rends?
Non, alors j'ai mon matériel qui tient dans un sac à dos. Donc, j'ai juste deux micros, deux enregistreurs et quelques câbles. Et je me déplace comme ça avec de quoi enregistrer. Et j'ai des sacoches avec quelques vêtements de rechange. Mais je voyage plutôt léger.
Et donc, où est-ce que tu as prévu de t'arrêter? Si c'est déjà organisé, entre guillemets, ou prévu, ta dernière rencontre?
Ma dernière rencontre, je la ferai en Alsace. Je ne sais pas encore quelle radio, mais je pense que ce sera à Mulhouse ou à Altkirch, la radio Quetch. Parce que donc c'est là où j'ai commencé la radio, donc je me suis dit que je finirais mon voyage là-bas.
Ça peut être une bonne idée, étant domicilié à Colmar avec les autres voix de la presse, on serait heureux de t'accueillir pour cette dernière étape. D'ici là, donc si j'ai bien compris, est-ce qu'on ne peut pas écouter les interviews, les rencontres que tu as faites? Tout cela sera disponible après la fin de ton voyage?
C'est ça, donc le documentaire sera disponible après la fin de mon voyage. Après là, j'ai sorti début janvier un premier épisode pilote où j'explique un peu plus ma démarche, d'où je viens. On va dire que c'est le seul épisode où il y aura beaucoup ma voix, parce que sinon je laisserai beaucoup plus la voix aux radios et aux personnes que j'ai rencontrées. Donc un premier épisode pilote, et j'ai aussi une newsletter sur kessel.media, donc c'est parce qu'autant podcasté.kessel.media, où une fois par mois, je fais un récap, une première petite analyse assez courte des radios que j'ai rencontrées pendant le mois.
Est-ce que tu peux nous épeler un petit peu là, parce que je ne sais pas, c'est Kessel, où est-ce qu'on peut retrouver tout ça?
K-E-2-S-E-L.media.
D'accord, et le nom du podcast?
Et le nom du podcast, c'est un voyage sur les ondes pour tous.
Eh ben, merci beaucoup, Lisa. Bonne fin de voyage. Hein. T'en as encore pour quelques mois avant qu'on t'accueille en Alsace.
Avec grand plaisir, d'ailleurs, pour passer vous voir.
Eh ben, merci beaucoup. Bonne rencontre.
Merci.
C'était Les Olvols de la Presse avec Lisa Giannarelli et son Tour de France à vélo des radios associatives. À la semaine prochaine, d'ici là.
On va s'interroger ton stylo.